that. It's time, so move it.
À l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'émission Zigzag se déplace à Kisangani.
Oh, il y a un véhicule qui passe mon
Dieu. Et surtout que nous sommes à quelques mètres de la route nationale numéro 1.
Voilà. De la place de la Poste au rapide de Wagenya, en passant par le stade Lumumba, revisiter l'histoire à travers tous les événements qui ont marqué cette ville entre 1950 et 1964. C'est un rendez-vous exceptionnel à suivre de lundi 30 juin de 13h à 15h, heure de Kinshasa, sur Radio Kinshasa.
Bien, bon nombre d'étudiants ont des difficultés à bien rédiger, travail des fins des cycles, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de des difficultés à leurs conséquences. Certains font mal ce travail et lors de la présentation, il y a de la défense, on sent qu'il y a beaucoup de lacunes. Alors certains étudiants, faute d'avoir maîtrisé les sujets, recourent carrément au plagiat. Ils vont dans les bibliothèques des établissements pour aller recopier carrément des chapitres entiers, des travaux précédents. Alors, quelles sont les règles à suivre pour bien rédiger un travail des fins des cycles, parce qu'il y a, des règles et des principes. Eh bien, Monsieur l'abbé Marcos Bindungwa, professeur à l'Université Pédagogique Nationale, il sera notre invité tout à l'heure pour nous en dire plus. On me fait signe qu'il est déjà en ligne. Monsieur l'abbé, bonjour.
Oui, bonjour Jody.
Alors dites-nous, quels sont les préalables ou quelles sont les règles à suivre pour arriver à bien rédiger un travail de fin de cycle?
Pour bien rédiger un travail de fin de cycle, je pense d'abord qu'il faut se mettre d'accord sur certaines étapes à suivre. Il faut d'abord savoir que on commence par le projet où on fixe un peu on fait le choix de tout, du sujet, du thème, on lève le calendrier, on pose la problématique, l'hypothèse, etc. Et il est conseillé que cette étape-là qu'on appelle l'étape de la conception du TFT puisse être parcouru en G2, donc l'année avant l'année terminale. Et l'année qui suit, on pourrait justement, en G3 ou en L2, on pourrait commencer avec la concrétisation du projet, où on passe par la collecte des informations. On va à la bibliothèque lire, ou bien on va le terrain avec des techniques d'enquête qu'on a apprises à l'université pour recueillir les données là où les informations sont rares et ne sont pas disponibles à la bibliothèque. Et après ce travail de collecte des informations, on peut passer à la rédaction du texte. C'est l'autre phase. Et sur base des informations qu'on a, il faut les mettre en ordre pour aller à la rédaction. Et là, ce passage-là de la collecte d'informations et rédaction, ça peut se subdiviser selon les chapitres qu'on a arrêtés pour son travail. Parce que si on passe tout le temps à la collecte d'informations, oui, sans commencer à rédiger, on risque de se trouver un peu en retard à la fin. Donc on peut aller progressivement en collecte d'informations. Pour un premier chapitre, on rédige ce premier chapitre, on remet au professeur qui corrige, qui vous renvoie les corrections. Comme ça, vous avez les feedbacks, vous pouvez voir où vous avez bien travaillé, etc. Passer à l'autre chapitre progressivement quand le chapitre précédent a été accepté.
Oui, monsieur l'abbé, mais souvent, au départ, le bon nombre d'étudiants connaissent des difficultés par rapport au choix des sujets. Quels sont les éléments qui doivent motiver le choix de tel ou tel autre sujet à aborder?
Le choix du sujet dépend de l'étudiant lui-même, qui doit voir ses compétences et ses capacités dans les domaines qu'il a étudiés. Donc, et tient compte de cela, parce que ça ne sert à rien de travailler sur une matière difficile qu'on a du mal à maîtriser. Donc, une matière qu'il maîtrise, et dans cette matière qu'il maîtrise, qu'il choisisse un sujet qui l'intéresse, qui suscite son intérêt, qui attire son attention. Peut-être que c'est un problème local qui est là et qui l'a toujours interpellé. Il peut mettre ses études à profit pour voir comment, à travers sa spécialité, donner des pistes de solutions à ce problème-là. Donc, ça peut dépendre des attentes de la société.
Oui.
Donc, il y a l'étudiant lui-même, il y a les attentes de la société. Il y a aussi la dimension de la disponibilité des informations, hein, parce que par moment, les étudiants choisissent des informations, des sujets plus tôt, mais ils se rendent compte plus tard qu'ils n'ont pas d'informations pour réaliser le travail qu'ils étaient censés étudier. Donc, la disponibilité des informations est aussi un critère important pour le choix du sujet. Donc, il y a l'étudiant,
oui,
il y a la société et il y a la matière.
Voilà.
Il y a peut-être la matière, il y a la disponibilité des informations, mais il y a également l'actualité. On ne va pas étudier des sujets vieux pour rien, à moins qu'il y ait vraiment de l'intérêt actuellement à revoir, à rentrer sur ces vieilles matières. Il y a la dimension de la limitation dans l'espace et dans les temps. Il ne faut pas que le sujet soit trop vaste dans son extension, sinon on n'en finit pas. Il faut que le sujet soit quand même original. Ça ne doit pas être une répétition inutile de ce qui a été déjà bien dit, bien fait. Donc je pense que c'est cela. Mais avant d'arriver vraiment à tout cela, il faut essayer de faire ce qu'on appelle l'état de la recherche. Donc, faire l'état des lieux.
Oui.
Voir ceux qui sont dans la même filière, dans la matière qui vous intéresse là, qui attire votre attention, où vous savez que vous avez de la compétence. Voir s'il n'y en a pas eu d'autres qui, avant vous, ont travaillé là-dessus. Tous les écrits qu'il y a de ce côté-là. Et faire une relecture critique, donc à la fois historique et critique, faire un peu d'historico-critique. Donc je fais l'histoire, comment le sujet a été abordé avant moi,
oui,
et je vois sous l'aspect critique pour voir qu'est-ce qui a été bien fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Alors, ce qui a été bien fait, c'est inutile de refaire. Et là où on a beaucoup travaillé, c'est inutile d'aller de ce côté-là. Il faut aller là où il y a un vide. Et là où on a mal fait, parce que là où on a mal fait, on peut corriger. Et là où on a du vide, eh bien, on peut apporter une contribution qui puisse être originale. Voilà quelques éléments qui peuvent aider les étudiants quant au choix de leur sujet.
Oui, mais l'étudiant peut faire l'état de la recherche. Il va à la bibliothèque, il va lire les, ouais, les travaux précédents dans son secteur et
ouais,
il vient présenter au lecteur ou au directeur,
ouais,
de son travail, qui lui dit non, je préfère plutôt que tu travailles sur tel ou tel autre sujet.
Oui, le travail de fin de cycle, comme c'est un travail académique qui est dirigé, donc il y a un directeur qui doit avaliser, accepter tout cela. Bon, son cultus est aussi important, donc il doit accepter cela. Donc, ça signifie que quand vous avez votre matière, vous avez arrêté ce que vous voulez faire, tâchez de discuter avec votre directeur. Allô?
Oui, allez-y.
Oui, tâchez de discuter avec votre directeur.
Oui.
Pour voir s'il peut être d'accord. Mais puisque c'est vous qui choisissez quand même le directeur, vous pouvez choisir alors un directeur qui s'intéresse à cette matière-là. Alors, si vous trouvez qu'il y a parmi les professeurs qui sont là, qu'il y en a un qui est intéressé à ce sujet-là,
mmh,
eh bien, vous avez de la chance. Mais si vous n'avez personne qui s'y intéresse, là, ça devient un peu difficile. C'est là peut-être que les étudiants sont obligés de changer, quoi. De toutes les façons, comme c'est un travail dont la responsabilité est portée à trois entre l'étudiant, les directeurs de mémoire ou de TFC, et l'institution académique, il faut toujours dégager ce consensus-là. Donc, mais si un directeur propose un sujet, eh bien, il faut que l'étudiant lui demande de lui expliquer les différents éléments, parce que là, ça ne vient pas de l'étudiant. Peut-être que ça ne rejoint pas à 100% l'intérêt de l'étudiant. Il appartient au professeur de faire naître, d'engendrer, de générer cet intérêt dans l'étudiant pour que l'étudiant comprenne ce qu'il faut faire et qu'il fasse exactement ce qu'il veut, ce qu'il entend de lui.
Voilà. Alors nous invitons les camarades étudiants. Vous êtes à l'UNIKIS, Université de Kisangani, UNIMBA, Mbandaka, l'UNILU, UNIKIN, UNIGOM et dans d'autres universités à travers le pays, ULPG, la Goma. N'hésitez pas à appeler nous pour participer à cette émission au 081 890 63 94.
C'est parce que Radio Capéune et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Comment bien rédiger un travail de fin de cycle? Joe nous appelle de Kinshasa, Fabien est à Magui. On commence avec Joe. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
On vous écoute Joe.
Oui, je suis Joe Muyamina, étudiant de l'université Révérend Kim à Kinshasa.
Ok.
Oui, je voulais poser une question à l'invité par rapport au thème débattu. Est-ce que notre État, parce que nous constatons lors de la rédaction de nos TFC, parce que moi je suis en troisième graduat, je fais la gestion informatique.
Okay.
Nous n'avons pas vraiment de bibliothèque hein, moderne qui peuvent nous faciliter la tâche de rédiger nos TFC. Malgré que moi, j'ai déjà terminé mon TFC, je l'ai aussi déposé, parce que nous suivons les normes de notre université.
Et vous avez travaillé sur quoi, Joe?
Oui, je travaillais sur la mise en place d'un système informatisé pour les enregistrements de véhicules, hein, au contrôle technique automobile.
Ok.
Oui, et je fais mes recherches à l'INPP, malgré les conditions, comme vous le savez. Mais est-ce que on ne peut pas nous aider ou aider ceux qui viennent après nous d'avoir les bibliothèques vraiment qui répondent aux normes de notre pays, parce que nous avons beaucoup de difficultés. Ça, c'était ma préoccupation.
Merci, Joe. Fabien, vous êtes à Magui, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachana. Bonjour à notre invité. Je suis étudiant à l'Université du Lac Albert au Congo.
L'Université du Lac Albert à Magui?
Ah oui, oui.
D'accord. Merci, on vous écoute, Fabien.
Ah oui, bon. Dans la phase de récolte des données, je vais poser une question à notre invité.
Oui.
Dans le cadre de la rédaction d'un travail de fait de cycle. Lorsque l'étudiant se rend compte que le sujet qu'il est en train de traiter est tellement actuel, si bien qu'il n'existe pas encore de documentation par rapport à ce sujet. Il n'y a pas d'ouvrage, mais seulement des informations verbales. Faut-il carrément que l'étudiant change de sujet? Qu'est-ce qu'il peut faire dans un tel cas?
Par exemple, vous parlez dans quel sujet, par exemple?
Oui, bon, je suis en train de travailler sur un sujet, c'est les ambiguïtés de positionnement de la société civile congolaise par rapport au pouvoir politique dans les territoires de Mahagi. C'est un sujet pour lequel il n'y a presque pas de documentation, il n'y a pas de travaux réalisés dans ce sens, surtout dans notre milieu ici. Alors, bon, les informations sont plus verbales que documentaires.
D'accord. Ambiguïté et positionnement de la société civile à Maragui, par exemple. Vous dites que dans ces secteurs-là, il n'y a pas assez de documentation. Que faut-il faire? Monsieur l'abbé Marcus.
Ouais, bon. Par rapport d'abord à Joe, qui pose le problème des bibliothèques, bon, je suis d'accord avec ce problème-là. S'il y a des endroits où notre université pêche, il y a notamment ce problème des bibliothèques. La plupart de nos universités n'ont pas de bibliothèque respectable. Moi-même, même si je fais toutes mes études ici à l'Université catholique du Congo pour ma thèse de doctorat, j'ai été obligé d'aller en Occident pour d'abord les livres. Et j'ai fait avec 80% de mes ouvrages, de mes informations recueillies à l'étranger. Donc si ce n'était qu'au Congo, je ne pouvais pas arriver jusque-là. Vous comprenez qu'il pose un problème réel. Mmh. Et regardez, dans la plupart des textes de mémoire de nos étudiants, ils ne font que citer des notes de cours, des notes de cours, des notes de cours. Alors c'est une faute sur le plan des normes bibliographiques. On cite les ouvrages publiés. C'est là qu'on a beaucoup plus de garanties. Et peut-être sur l'Internet, quelques sites qualifiés dans chaque domaine. Parce que là aussi, sur l'Internet, tout le monde peut loger toutes les informations qu'il veut.
Mais sur Internet, il y a aujourd'hui des livres virtuels. Hein, on peut les consulter en ligne.
Si ce sont des ouvrages en ligne, là, il n'y a pas de problème. Ça a exactement la même valeur qu'un livre publié sur papier. Mais le problème de la bibliothèque, c'est un grand problème. S'il y a un endroit où l'État doit investir énormément pour que nous puissions rejoindre des exigences actuelles d'assurance qualité, il faut que nous puissions investir dans les bibliothèques, dans les budgets de chaque institution académique. On devrait prévoir un montant pour l'achat des livres et prévoir des bâtiments qui conviennent pour loger tous ces ouvrages-là. Je crois qu'il pose un problème réel. Les autorités qui nous suivent savent qu'est-ce qu'elles doivent plutôt faire. Mmh. On a sérieusement de ce problème-là. Fabien va aussi du côté de problèmes au niveau des informations.
Oui.
Et lui, il pose ce problème d'un sujet nouveau.
L'ambiguïté de positionnement de la société civile.
Il n'a pas d'information. Il est presque le premier à l'étudier. Le problème peut être résolu parce que il y a des techniques de collecte scientifique des informations. Là où les informations sont rares ou là où les informations sont nouvelles ou là où les informations, on n'a pas d'autorité scientifique à ce niveau-là. Alors là, on utilise les techniques d'enquête où on descend sur le terrain. Il peut utiliser soit l'entretien, soit l'interview, soit l'observation participative, soit l'enquête d'abord qualitative à questions fermées et puis par la suite quantitative à questions ouvertes d'abord puis à questions fermées. Et tout ça, ce sont des choses qu'ils apprennent en classe. Normalement, si sa formation méthodologique était assurée, c'est des questions qui ne se posent pas parce que l'université assure cette formation.
Mais Monsieur l'abbé, avant de faire cette enquête, il y a la partie théorique. Alors pour rédiger cette partie théorique, il faut lire, il faut des ouvrages pour bien rédiger cette partie.
Pour la partie théorique, il a suivi des cours. Ces cours donnent justement des principes. C'est à partir justement de ce qu'il a étudié au cours, des principes qu'il a étudiés au cours, qu'il a observé la réalité sur le terrain. Il a vu que cette réalité sur le terrain était en difficulté et c'est sur base de ça qu'il veut étudier. Donc il a ses notes de cours, il peut recourir aux professeurs, leur poser des questions pour savoir où est-ce qu'ils ont trouvé, eux, les informations qu'ils lui ont données pendant le cours. Donc cette partie théorique qui fait office de la partie des principes, il peut avoir des éléments de ce côté-là auprès de ses professeurs sur le terrain, alors là qu'il utilise les techniques d'enquête qu'il a étudiées.
Voilà, les techniques d'enquête avec questionnaire.
Oui, bon, la méthode qu'on appelle l'enquête, ou bon, qu'on peut appeler aussi par moment la méthode inquisitoire, c'est justement dans le contexte où on a une rareté d'informations, il n'y a pas d'informations, pas une autorité scientifique qui peut vous donner des informations de ce côté-là, alors on on recourt assez à toutes ces techniques de descente sur le terrain. Si on a un public moindre, si on a un public moindre et que c'est un, ce n'est pas un public compliqué, on peut aller par entretien. On échange à bâton rompu avec les uns les autres, les personnes qu'on rencontre partout, et on a des informations.
Mais il va se poser peut-être un problème d'échantillonnage pour l'enquête. Hein.
Là, vous êtes en train, je dis, de mélanger, parce que l'enquête, comme je dis, la méthode d'enquête a 5 techniques. Je vous explique les 5 techniques progressivement.
Oui.
La première technique, c'est l'enquête, l'entretien.
Mmh.
On fait le simple entretien à bâton rompu quand le public est réduit. On n'a pas beaucoup de gens à enquêter et l'accès à ce public-là est facile. Là, on peut parler à bâton rompu et quand on arrive à la maison, on note ces informations comme on peut.
Oui.
Mais si ce public qui est réduit aussi, il y a un public solennel, le genre des autorités, d'une entreprise, des autorités politiques, etc., qui demandent une certaine solennisation. En ce moment-là, on utilise l'interview. On a un questionnaire qu'on a bien imaginé avant et on a peut-être eu le temps de discuter avec les personnes sur le questionnaire et après, on vient échanger. Et à la fin, on peut aussi se mettre d'accord sur les résultats de l'enquête, les réponses données, un peu comme on fait quand on va chez les OPJ. Vous avez donné des réponses, il a noté, après il vous redonne, vous relisez, si vous adoptez ces réponses, vous signez. Donc au niveau de l'interview, souvent c'est cela qu'on fait pour qu'on soit sûr que les informations que vous avez données, l'autorité qui vous reçoit l'accepte aussi en tant que telle. La troisième technique, c'est l'observation participative. Quand il s'agit d'un public qui est plus ou moins large, mais qui habite ensemble, qui fonctionne ensemble, là, on utilise l'observation participative. On va s'y intégrer, soit comme stagiaire, soit comme quelqu'un qui vient habiter, comme on voit dans les documentaires qu'on voit à la télévision.
Mmh.
Les gens qui vont ici et là, ils vont vivre, apprendre à vivre dans cette société-là pour comprendre la société à enquêter. Ou bien quand ils vont en stage, vous allez en stage dans ce milieu-là, et vous pouvez bien savoir comment ça fonctionne et jouer votre rôle d'enquêteur tout en sachant que vous devez garder à la fois une certaine neutralité parce que vous êtes enquêteur, vous ne devez pas montrer que vous êtes nécessairement enquêteur parce que les gens risquent de devenir méfiants, mais vous devez, tout en vous y intégrant, garder une certaine distance critique parce que vous risquez d'être corrompu aussi par l'environnement que vous avez trouvé et oublié les principes. Ça, c'est la troisième technique.
Quatrième technique.
La quatrième technique, c'est l'enquête à questions ouvertes. Vous avez, on utilise là les deux dernières techniques, enquête à questions ouvertes, enquête à questions fermées, sont utilisées quand il s'agit d'un public large qui est éparpillé. Vous voulez par exemple étudier le problème des passations des grades des professeurs dans les écoles privées. Il y en a dans la ville de Kinshasa, il y en a beaucoup. Donc,
oui.
Vous allez aller partout. C'est à ce moment-là que vous avez besoin d'un questionnaire avec un nombre réduit, raisonnable de questions pour recueillir toutes les informations nécessaires. Faire le constat, être sûr que vous n'avez pas inventé quelque chose, monté quelque chose de toute pièce.
D'accord. Monsieur Labbé, un instant, avant de poursuivre, on va accueillir Djaloudi. Il nous appelle de Lubuntu, Maniema. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Djaloudi.
Oui, moi, c'est Djaloudi Bir Mustapha Chérif. Je vous appelle depuis Lubuntu, dans la province du Maniema. Je voulais dire par rapport à ce sujet, concernant ce sujet, j'ai déjà fait l'analyse, nous avons constaté que beaucoup de travaux de fin d'études, ce sont des copier-coller. Les étudiants sont paresseux, ils ne cherchent pas vraiment le travail propre. ils cherchent le travail des années passées de leurs grands frères, de leurs grandes sœurs, pour qu'ils fassent leur travail. Maintenant, concernant ce sujet, est-ce que l'intervenant ne voit pas que ces procédures sont seulement des théories, mais ils ne sont pas mises en pratique?
D'accord, merci Jaloudi. Monsieur Labbé, revenons au cinquième point. Vous avez parlé de le simple entretien, donc, l'interview,
l'observation. Vous avez parlé de l'enquête à question
ouverte.
Mmh. Alors, à ce niveau-là, donc, vous avez votre questionnaire et vous passez dans la population cible. Donc, si vous avez dit, par exemple, c'est des écoles privées de Kinshasa, vous passez dans une, deux écoles privées, trois, quatre, pour avoir un peu l'état des lieux, des gens qui répondent, qui donnent leurs réponses, parce que les questionnaires de ce niveau n'ont pas d'assertion. Elles sont des questions libres, ouvertes, comme un examen de type traditionnel, quoi. On pose une question, chacun donne la réponse. Alors, les réponses qui vont être données à la suite de cette étape pourront constituer le questionnaire au niveau de la cinquième étape, enquête à questions fermées. On a toutes ces réponses-là et on essaye de faire ce qu'on appelle l'analyse de contenu. Alors, les assertions qui sont données, on essaye de les réduire parce que vous pouvez avoir pour une question, pour une seule question, 10 réponses. Alors, vous n'allez pas mettre une assertion, un questionnaire avec 10 assertions, avec des questions qui ont 10 assertions. Ça ne va pas. Alors, vous faites la réduction. En tout cas, il faut arriver autour de 4, 5 ou 6 assertions. C'est déjà bon. N'allez pas au-delà.
Oui.
Il ne faut pas que ça soit aussi des questions du genre oui ou non. Ben, ça, au niveau de l'enquête à question fermée, ça ne va pas. Alors, quand vous avez réduit, pris les assertions essentielles, alors pour toutes les questions, vous avez alors ce questionnaire à question fermée, parce que c'est comme un examen à choix multiples. Mais où les concernés sont obligés pour chaque question de ne choisir, sont obligés de ne choisir qu'une seule réponse, une seule assertion. Pas plus.
Alors, d'accord. Passons maintenant à la question de Jaloudi, de Lubutu, qui dit beaucoup, bon nombre d'étudiants font du copier-coller. Ils respectent même pas tous ces procédures.
Qui est un problème pas seulement éducatif, et qui n'est pas un problème simplement académique, mais qui est un problème éducatif. C'est la grande question de l'honnêteté qui commence déjà petit en famille et qui nous accompagne jusqu'au niveau des affaires de l'État. Donc c'est ça le problème. Les gens ne sont pas simplement honnêtes. Parce que pour un travail de fin de cycle, c'est vous apportez une contribution à la science. Alors quand vous allez recopier un travailleur, quelle est votre contribution? Elle est nulle. Donc c'est simplement cette question de l'honnêteté scientifique. Alors il faut que, puisqu'il y a des gens qui veulent vraiment ne pas être honnêtes, il faut que les institutions académiques passent peut-être par un système informatique où on fait ce genre de contrôle.
Oui, dans certains établissements,
on s'est attrapé les plagiats.
Dans certaines universités, on a même réduit l'accès aux bibliothèques à cause du plagiat.
Oui, donc on a simplement interdit l'accès à la bibliothèque, aux mémoires. Donc les gens ne peuvent pas utiliser leur... Ils peuvent pas aller à la bibliothèque. Donc dans les bibliothèques, vous n'avez pas accès aux mémoires pour que chacun travaille. Mais même si vous n'avez pas accès à la bibliothèque, aux mémoires dans les bibliothèques, on connaît les aînés qui ont travaillé sur X, Y, sur Z, sur telle matière. Donc on peut aller les aborder. Mais actuellement, en Occident, on passe par le contrôle électronique. On prend votre mémoire sous format électronique, on met ça dans un programme et le degré d'authenticité, d'originalité est donné. C'est tel pourcentage de textes qui viennent de vous et c'est tel pourcentage de textes qui ont été copiés ailleurs. Si c'est du copier-coller, on sait parfois avoir cela, quoi. Donc, on est encore loin de cela, mais je crois que ici, il y a moyen de faire du sérieux du côté des défenses. On peut attraper certains. Je regrette que on interdise les défenses de mémoire au niveau du graduat. Je crois qu'ici il faut on doit rentrer là-bas parce que les mémoires si au niveau des TFC si ils ne sont pas défendus, eh bien on ne saura pas attraper
les tricheurs.
Oui, on ne saura pas attraper les tricheurs. De toutes les façons, la quantité d'étudiants par rapport à la quantité des professeurs, c'est tel que on aura toujours ce genre de difficultés. Parce que les défenses actuellement, c'est quoi? Vous arrivez au niveau du jury, c'est sur la table que tu rencontres les mémoires des étudiants qui sont en train de défendre. Quelles questions vous voulez leur poser et comment vous allez faire le contrôle? Donc c'est tous ces problèmes-là qu'il faut. Mais fondamentalement, c'est un problème d'éducation à l'honnêteté. Il y a trop de malhonnêtes dans le pays, à tous les niveaux, en commençant des enfants jusqu'à aux vieilles personnes. C'est là le grand malheur.
Voilà, c'est là le grand malheur. Donc il revient aux différentes institutions d'enseignement supérieur de renforcer les mesures de sécurité pour mettre hors d'état ou pour empêcher les tricheurs de bien fonctionner.
Si à l'État et à toutes les institutions d'éducation morale, etc., d'appuyer, de rappeler cette valeur-là pour que les gens soient honnêtes. Et là où il y a des malhonnêtes, il faut qu'on attrape les malhonnêtes et qu'on les punisse. Et quand on ne peut pas arriver à ce niveau-là, ben écoutez, la tricherie va continuer. Aujourd'hui, c'est tricherie, demain, c'est corruption, etc. Bon, ça va continuer.
Bien, monsieur l'abbé Marcus Bindungwa, on s'arrête là pour aujourd'hui. On ne pourra pas terminer ce sujet. On aura l'occasion d'y revenir prochainement. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université pédagogique nationale. Merci et bonne journée.
Merci, je vous en prie.